VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Bonjour, le monde aujourd'hui, édition du lundi 27 juin 2016. En direct de Washington, Idrissa Seydoudia et Arnold Bolson. Tout d'abord, les titres.
Au Mali, au moins 15 personnes ont été tuées et 46 blessées ce week-end dans la région de Mopti.
À Madagascar, un attentat à la grenade a fait au moins 2 morts et 84 blessés hier dans un stade de la capitale.
L'Europe, toujours sous le choc du Brexit, de grandes manœuvres sont prévues autour du divorce Grande-Bretagne-Union européenne.
Au Liban, 5 morts et 15 blessés dans une série d'attentats-suicides.
Les forces irakiennes ont annoncé hier la libération totale de Fallujah après une opération de plus d'un mois.
Et ne manquez pas le journal de l'Euro 2016 ainsi que la Minute Éco, pour l'instant le journal.
Les autorités américaines ont annoncé jeudi dernier le gel des avoirs aux États-Unis du général Célestin Kanyama, chef de la police de Kinshasa. Washington brandit la menace de nouvelles sanctions si le président Joseph Kabila veut rester au pouvoir au terme de son dernier mandat. Alors pourquoi sanctionner le général Kanyama sans toucher au président Kabila ? Idriss Fall a joint Steve Weissman, ancien chef du personnel à la sous-commission des affaires africaines de la Chambre des représentants et auteur d'un livre sur la politique américaine au Congo.
On attend un peu pour voir si Joseph Kabila va changer sa politique, si peut-être il voit que les pressions externes commencent à grandir. Il peut repenser sa politique de se maintenir au pouvoir.
La Cour constitutionnelle de la RDC a déjà donné le feu vert.
On ne l'accepte pas. Le département du Trésor des États-Unis a écrit limité à 2 mandats quand il essaie de continuer après les 2 mandats. Et ça n'est pas acceptable. Si M. Kabila essaie de dire qu'un cour constitutionnel complètement dominé par lui, il a choisi les membres, dit que je peux rester, les États-Unis disent non, nous voulons que vous respectez la constitution lui-même, pas l'opinion des gens que vous avez désignés. À ce moment, c'est fort probable qu'il n'y a pas de moyen d'avoir une élection libre parce que le gouvernement a manipulé la situation pour ne pas laisser assez de temps. On doit avoir un accord entre M. Kabila et ses opposants pour ce qui va passer après le 19 décembre. Dans l'absence d'un tel accord, je crois que les États-Unis ne vont pas concevoir que la continuation de M. Kabila comme président sera légitime.
Steve Weissman, ancien chef du personnel à la sous-commission des affaires africaines de la Chambre des représentants, ici à Washington.
Dans le centre du Mali, au moins 15 personnes ont été tuées et 46 blessées ce week-end dans des affrontements entre des habitants de 2 villages dans la région de Mopti. Les violences ont opposé des paysans de Koussouma et de Mounia, près de Djenné, après un litige sur des terres. Le point avec Sékouba Traoré, secrétaire général de la commune rurale de Nema Badea Kafo, dans la région de Mopti.
Le dernier bilan, c'est 15 morts. La cause, c'est un litige foncier qui date des années 40. Il y a eu plusieurs jugements. Parce qu'ils avaient commencé par le premier instant à Djenné, qui a donné raison à Mouna. Parce qu'on n'était pas d'accord, ils ont interdit l'appel. Mopti a confirmé la décision. D'autres l'ont approuvé en cassation. Le litige porte sur un lieu qu'on appelle Mouna Tientien. Maintenant, le Mouna Tientien, on les a fait savoir que ça appartient à Mouna, mais les gens de Kosma ont 69 dans l'endroit, ce qui n'a pas plu aux gens de Mouna. Le dernier jugement qui a eu lieu courant 2014. Il y avait un juge qui était venu à Djenné de 2008 jusqu'en 2014. Personne ne cultivait l'endroit. Maintenant, l'année dernière, les gens de Kosma ont eu à cultiver ça, ce qui n'a pas plu aux gens de Mouna. Cette année, le vendredi soir, il n'a plu encore. Le lendemain matin, les gens de Kosma sont sortis pour venir cultiver l'endroit. Entre temps, comme l'endroit est à 100 mètres de Mouna, mais à 11 km de Kosma, les gens de Mouna sont sortis pour aller trouver celui de Kosma là-bas. Bon, maintenant, c'est là où il y a eu affrontement. Et malheureusement, on déplore, comme celui qui vient de dire, 15 morts, 46 blessés.
C'était secrétaire général de la commune rurale de Nema Badea Kafo, dans la région de Mopti, M. Sékouba Traoré.
À Madagascar, un attentat à la grenade, lié selon le président du pays à une divergence politique, a fait au moins 2 morts et 84 blessés hier dans un stade d'Antananarive lors des célébrations de la fête nationale. Sans donner aucune information sur l'enquête en cours, le président Eri Rajao Narimpiana s'est rendu à l'hôpital où les victimes ont été prises en charge et a rapidement évoqué une piste politique et lancé un appel au calme.
La première dame des États-Unis, Michelle Obama, est arrivée hier soir au Cap-Vert, où elle devait passer la nuit avant d'entamer une tournée pour promouvoir l'accès des filles à l'éducation. Avant de repartir ce matin pour Monrovia, la capitale du Liberia, Michelle Obama doit rencontrer la première dame du Cap-Vert et faire une brève déclaration à la presse sur sa campagne « Let girls learn », « Laissez les filles apprendre ». Après le Liberia, Madame Obama se rendra au Maroc puis en Espagne.
En Tunisie, une minute de silence a été observée hier sur la plage de Sousse où 38 touristes, dont 30 Britanniques, ont été tués il y a un an jour pour jour dans un attentat revendiqué par le groupe État islamique.
La cérémonie a été placée sous haute surveillance policière. Le 26 juin 2015, un Tunisien armé d'une Kalachnikov avait débarqué sur la plage et ouvert le feu sur des touristes étrangers avant d'être abattu par la police.
L'attaque revendiquée par le groupe État islamique survenait 3 mois après celle du musée du Bardo à Tunis, où 21 touristes et un policier avaient été tués. En novembre 2015, un autre attentat avait tué 12 agents de la garde présidentielle en plein centre de Tunis. L'état d'urgence proclamé dans la foulée de cette attaque est toujours en vigueur.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
L'Europe est toujours sous le choc du Brexit. C'est l'heure des grandes manœuvres sur la procédure de divorce du Royaume-Uni avec une Union européenne, Idriss Fall.
La chancelière allemande Angela Merkel reçoit aujourd'hui le président français François Hollande et le premier ministre italien Matteo Renzi. Madame Merkel doit aussi discuter séparément lundi avec Donald Tusk, président du Conseil européen, qui doit présider mardi et mercredi un des sommets européens les plus tendus. Le premier ministre britannique David Cameron devrait faire dans la soirée des explications post-mortem. Mercredi, il y aura une réunion dite informelle avec les 27 autres chefs d'État et de gouvernement. Jean-Claude Juncker, président de la Commission européenne, souhaite que Londres envoie au plus vite la lettre de divorce à Bruxelles. Le Parlement européen tiendra mardi une session extraordinaire. John Kerry, secrétaire d'État américain, s'est invité dans cette crise. Bouleversant son agenda, M. Kerry se rendra aujourd'hui à Bruxelles avant de s'envoler pour Londres. La capitale britannique se débat en pleine tempête post-Brexit. Des guerres intestines déchirent les deux principaux partis politiques. Le Premier ministre David Cameron doit réunir son conseil des ministres ce matin, tandis que le Parlement va siéger à nouveau. Pour rendre les choses plus compliquées, Nicola Sturgeon, la première ministre écossaise, a remis sur la table la question de l'indépendance de l'Écosse.
Au Liban, 5 personnes sont mortes et 15 ont été blessées tôt ce matin dans une série d'attentats suicides dans un village de l'Est proche de la frontière syrienne.
Les forces irakiennes ont annoncé hier la libération totale de Fallujah après une opération de plus d'un mois. Et le Premier ministre a fixé le cap sur Mossoul, dernière place forte du groupe État islamique en Irak. Jean-Roger Bion.
Le premier ministre irakien Haider al-Abadi s'est rendu hier à Fallujah. Il a appelé ses concitoyens à célébrer la reprise de cette ville située à 50 km à l'ouest de Bagdad. Il a promis que le drapeau irakien sera bientôt hissé à Mossoul, la deuxième ville du pays qui est encore sous le contrôle des djihadistes. Après avoir repris Ramadi, chef-lieu de la province d'Al-Anbar, Bagdad a lancé l'offensive sur Fallujah le 23 mai dernier. Les djihadistes ont opposé une forte résistance pendant plus d'un mois. Finalement, hier, les forces irakiennes ont annoncé la victoire totale en prenant le contrôle du dernier quartier où s'étaient retranchés les combattants islamistes. Fallujah a été la première cité irakienne à tomber aux mains des djihadistes en janvier 2014. Ils avaient ensuite mené une offensive éclair pour conquérir de vastes régions et annoncer ensuite la création d'un califat à cheval sur l'Irak et la Syrie. Mais depuis plus d'un an, le groupe État islamique a perdu les 2/3 de ses territoires face aux forces irakiennes soutenues par la coalition internationale conduite par les États-Unis.
Ici, aux États-Unis, 10 personnes ont été blessées, dont 2 grièvement lors d'affrontements entre des néo-nazis et des contre-manifestants devant le Capitole de l'État de Californie à Sacramento. Fin de ce journal, vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique.
On passe au sport à présent avec le journal de l'Euro et Nicolas Pinault. Bonjour Nicolas.
Bonjour Idrissa.
La suite des huitièmes de finale et ça passe pour la France.
Oui, le pays organisateur a beaucoup souffert. Mené au score après 2 minutes de jeu contre l'Irlande, les Bleus ont pourtant validé leur billet pour les quarts de finale grâce à un doublé d'Antoine Griezmann en seconde période. Score final 2-1. À noter que les Irlandais ont été réduits à 10 après l'expulsion de Shane Duffy suite à une faute sur Antoine Griezmann. Cette qualification de la France pour les quarts de finale, c'est l'objet du coup de sifflet de Jules Valentin Gouet.
Bonjour. En gagnant son match dimanche contre une rugueuse formation d'Irlande, l'équipe de France a réconforté ses nombreux supporters qui attendaient de la voir à l'épreuve dans une rencontre à élimination directe. Mais que se fit dire? Les Irlandais ont annoncé la couleur dès la première minute en exploitant une bévue de la défense des Bleus, peu sécurisante depuis le début de la compétition. La formation française, spécialisée par l'enjeu, le scénario du match et les fautes de placement imposées à ses joueurs majeurs a semé le désarroi en première mi-temps sur la pelouse comme dans les gradins. La décision de Deschamps à la pause de replacer Matuidi sur le côté gauche, de ramener Griezmann dans l'axe en dédoublement avec Giroud et de faire rentrer Coman à la perfection va totalement changer le cours ainsi que le sort de la rencontre. Rarement un entraîneur n'a été aussi près d'être responsable de la défaite de son équipe pour ensuite devenir, dans la même rencontre, l'auteur de sa victoire. Pour le reste, l'équipe de France, qui a profité d'une période de récupération plus longue que l'Irlande, monte incontestablement en puissance et trouve ses marques. Il était temps, même si la suspension de Ramsey remet à l'ordre du jour et sans plus permettre le problème de la défense axiale. À Deschamps de le résoudre. À demain.
Qualification aussi de l'Allemagne et de la Belgique hier soir.
Oui, les Allemands, champions du monde en titre, ont facilement battu la Slovaquie 3-0 grâce à Boateng, Gomez et Draxler. Autre addition salée, celle de la Belgique face à la Hongrie. Les Diables Rouges se sont facilement imposés 4-0. Retour sur ce match avec Jean-Roger Billon.
À Toulouse, les choses n'ont pas traîné puisque les Belges ouvrent le score dès la 10e minute de jeu grâce à un but de la tête de Kirali. Les choses s'accélèrent au retour des vestiaires. Le match va basculer dans les 25 dernières minutes. Michy Batshuayi, à peine entré en jeu, c'est le sur un caviar d'Eden Hazard inscrit le 2e but. Eden Hazard, encore lui, inscrit le 3e but. Le calvaire de la Hongrie ne s'arrête pas là. En toute fin de match, Yannick Carrasco est venu parachever le succès de la sélection belge avec un 4e but à la 91e minute de jeu. Les hommes de Marc Wilmots enregistrent donc une victoire prometteuse pour la suite de la compétition. Ils joueront leur place dans le dernier carré vendredi à Lille contre le Pays des Galles. Surprise de la compétition qui a battu l'Irlande du Nord 1-0 samedi.
Dernier huitième de finale ce lundi.
L'Angleterre affronte l'Islande à 19h temps universel. Mais le choc de la journée, c'est bien évidemment Espagne-Italie. Le champion en titre espagnol affronte le finaliste italien malheureux, comme lors de la finale il y a 4 ans à Kiev. Le point avec Bagassi Koura.
Oui, ce soir, les hommes de Del Bosque doivent se méfier de la robuste défense italienne capable de neutraliser leur jeu de passe. L'Espagne emprunte la route de la mort, avait d'ailleurs observé un quotidien madrilène le jour de la qualification de la Roja. Ce soir, l'Espagne aimerait encore compter sur César Fabregas, qui en 3 confrontations contre l'Italie à l'Euro a toujours été déterminant. L'Espagnol de 29 ans, plutôt décevant jusqu'ici dans l'édition 2016, espère bien se rappeler au bon souvenir de la nationale dans le plus gros choc des huitièmes de finale. Mais voilà, celui que l'Espagne appelle simplement Cesc à bord de ses retrouvailles à Saint-Denis, sans l'aura d'un titulaire indiscutable, après une saison médiocre avec Chelsea et des premières apparitions timides dans cet Euro.
Voilà pour ce journal de l'Euro. Merci Nicolas Pinault. On termine par la finale de la Copa América qui opposait cette nuit l'Argentine et le Chili. Le Chili a remporté pour la 2e année consécutive la Copa América en prenant le meilleur sur l'Argentine au tir au but en finale de l'édition 2016. Lionel Messi a manqué l'un des deux tirs au but argentin ratés et n'a pas réussi à offrir à l'Argentine son premier titre depuis 1993.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
De nouveau avec vous, Idrissa Seydoudia. Nous passons maintenant à nos dossiers du jour. Au Cameroun, l'Assemblée générale du barreau du pays vient de publier un rapport dénonçant la situation précaire des droits de l'homme au Cameroun. Selon le rapport, il existe de nombreuses obstructions aux libertés d'expression, la corruption et des détentions arbitraires au Cameroun. De Yaoundé, les précisions de Moki Edwin Kinzeka.
Le rapport, selon les études menées à partir de 2015, dénonce les conditions de détention dites choquantes dans toutes les prisons du Cameroun. Selon Maître Simon-Pierre Etemé, président du projet Barreau Gouvernance État de Droit au Barreau du Cameroun, les prisons construites pour recueillir 16 000 détenus comptent déjà plus de 28 000 prisonniers. Construit pour 2000 prisonniers, par exemple, la prison centrale de Yaoundé compte déjà plus de 4000 détenus et 70% sont en détention préventive. Une situation dénoncée par Maître Simon-Pierre Etemé.
Nous avons relevé que de nombreux écarts existent encore sur des questions de droit à la vie, des questions d'atteinte à l'intégrité physique, des questions de torture. Nous avons relevé que le problème de la privation de la liberté reste plutôt une grave endémie dans nos milieux de détention. On va en prison parfois pour rien, on y demeure pour rien. Un petit exemple, nous avons relevé que dans plusieurs cas, quelqu'un qui est relaxé ou acquitté aujourd'hui continue à rester en tôle 2 semaines. 3 semaines, on a eu des cas 1 mois plus tard.
Le rapport souligne aussi les problèmes de l'offre et des besoins en matière des droits de l'homme au Cameroun.
Si nous évoluons sur le terrain des droits civils, des droits économiques, sociaux et culturels, nous avons pris pour référence l'agenda officiel, la documentation officielle de l'État camerounais. Si vous comparez ce qui a été dit et ce qui est réalisé, on constate bel et bien qu'il y a encore des retards et cela nous l'avons attribué à des petites questions de gouvernance qu'il faudrait encore motoriser.
Le rapport soulève également le manque de liberté d'expression, les inégalités dans l'accès au travail, la pauvreté, la corruption et le manque de transparence dans le processus électoral.
La première des solutions consiste pour nous à mettre en conformité notre droit interne avec le droit international parce que la plupart de ces écarts sont dus au fait que nous n'avons même pas à importer tout ce qu'on a pris comme engagement au plan international. La deuxième chose, c'est qu'on a relevé que l'accès au droit, qui est le fondamental, n'est pas assuré aux Camerounais.
Les avocats camerounais demandent le travail en synergie avec les autorités publiques afin de combattre tous les abus aux droits de l'homme. Moki Edwin Kinzeka pour VOA Afrique, Yaoundé.
Vous écoutez VOA Afrique à Douala, au Cameroun, sur Radio Balafon, FM 90.2.
Au Niger, 75% des filles sont mariées avant leur 18e anniversaire, selon des statistiques, soit l'un des taux de mariage d'enfants les plus élevés du monde. Dans ce reportage de notre correspondant à Niamey, la capitale, Abdulrazak Idrissa nous raconte l'histoire d'une jeune femme mariée à 12 ans et qui s'est échappée de son foyer et a réussi, grâce à une association qui lutte contre ces pratiques, à refaire sa vie.
Je réponds au nom de Jamila Moussa. J'ai 27 ans.
C'est dans son foyer, au quartier Rukazma de Niamey, que nous avions rencontré Jamila Moussa. Derrière un voile, elle a accepté de nous raconter l'histoire de son premier mariage alors qu'elle n'avait que 12 ans.
J'avais 12 ans quand mon papa m'a donné un mariage au fils de son grand frère. Après le mariage, on m'a amené chez lui et c'est là qu'il a commencé à me frapper, à me battre. Et j'ai fui pour venir ici à Niamey et j'ai rencontré Madame Maria Moussa. C'est la présidente de l'ONG SOS Femmes et enfants victimes de violences familiales et c'est elle qui m'a sauvée.
Cette union scellée contre son gré et celui de sa maman n'aura donc pas duré longtemps. Une nuit, et décide de s'en aller, parcourt plus de 40 km pour monter à bord d'un camion et se retrouver à Niamey dans une famille inconnue. C'est de là qu'elle est conduite au siège de l'association Femmes et Enfants Victimes de Violences Familiales de Mariama Moussa.
J'ai mis là, au moment de sa fuite, notre organisation l'avait reçue. Elle était traumatisée. C'est une fille vraiment qui est très intelligente. Avoir le courage à cet âge de fuir, c'est pas chose facile et c'est quelque chose qui n'est pas donné à n'importe qui.
Quelle est aujourd'hui la situation de ces enfants mariés précocement?
Et la situation de ces enfants est très critique. Nous avons un taux de 76%, ce qui est inquiétant et alarmant. La prise de conscience est là, mais pas à tous les niveaux. Le fait de dénoncer, pour nous, c'est déjà un pas de gagné.
Des cas comme celui de Jamila, la présidente de l'ONG SOS Femmes et Enfants Victimes de Violences Familiales en reçoit régulièrement. La structure les prend en charge comme elle peut. Jamila, par exemple, est recrutée comme femme de ménage au sein de l'association. Et c'est ici qu'elle a rencontré son mari avec qui ils ont aujourd'hui 3 enfants. Elle participe aussi aux activités de sensibilisation sur le phénomène du mariage précoce.
Je lance surtout à l'endroit des parents de laisser les jeunes filles grandir et avoir un esprit ouvert et de faire leur choix de mariage. Puisque maintenant, si moi, par exemple, ça aurait été que c'est moi qui ai choisi mon mariage, je n'allais pas me plaindre auprès d'eux pour les dire que non, le mariage. Je ne me plais pas ou bien mon mari me bat.
Abdullah Razak Idrissa à Niamey pour VOA Afrique.
VOA Afrique au Niger à Niamey, 24 heures sur 24 sur 102.5 FM.
En République démocratique du Congo, suite à une insuffisance dans la fourniture d'électricité par la société nationale, la population fait nolens volens une transition écologique en utilisant l'énergie renouvelable avec des panneaux solaires. Reportage de Charlie Kasereka à Goma, capitale de la province du Sud-Kivu, dans l'est de la RDC.
Être autonome et dépenser une fois pour toutes, c'est exactement ce qui a motivé Emmanuela, mère des 3 enfants et qui utilise l'énergie renouvelable depuis plus d'une année maintenant.
C'était après avoir été déçue par la société qui produit l'électricité à Goma. Ça m'a motivée d'aller vers l'énergie renouvelable. Et depuis que j'ai cette énergie, les enfants sont à l'aise, on charge les téléphones. En plus de cela, ça nous aide trop à protéger l'environnement parce que je n'utilise plus les bois, ça m'aide vraiment par rapport à ce que je vivais avant.
Sur ces des jeunes étudiants en électronique qui se sont créés des petites entreprises pour fabriquer localement des convertisseurs d'énergie solaire en courant continu, Kambale, surnommé Spray, la vingtaine, et parmi ces étudiants, il se réjouit économiquement de ce qu'ils gagnent.
En tout cas, nos convertisseurs se vendent déjà, apprécient notre qualité, notre façon de faire, et par mois on peut vendre un minimum de 4 convertisseurs. Je me retrouve économiquement, mais c'est pas trop facile puisque ça dépend de la connaissance d'une personne à l'autre.
Pour question d'assurance et de sécurité, les ménages devraient approcher les techniciens bien avertis, pense l'ingénieur Seboujangwe Jean Dédier, enseignant du cours d'électronique à l'université de Goma.
Il ne faut pas seulement voir les systèmes solaires en soi, mais il faut savoir comment installer correctement, parce que souvent les incendies proviennent d'une mauvaise installation qui ne tient pas compte des normes. Les câblages, bon, surtout les sectionnements, souvent ce n'est pas bien choisi en fonction de la charge qui doit être ici. C'est surtout cela qui pose problème.
Dans la ville, des magasins qui revendent des panneaux solaires achetés en Chine et en Europe se multiplient et se frontent les mains. Bbox, une antenne de l'entreprise britannique qui s'est lancée dans cette activité depuis plus de 2 ans maintenant, qui a vu son chiffre d'affaires évoluer. Son gérant Harry Amouli explique ici.
En tout cas, il y a vraiment une masse qui vient. Donc maintenant, par mois, on peut arriver à 50 ménages qui viennent acheter les petits kits. Donc au minimum, celui qui a 50 dollars avoir un système solaire. Notre chiffre d'affaires, ça dépend aussi de la satisfaction de la population. Et notre objectif, c'est que tout le monde ait accès à cette énergie. Maintenant, c'est presque les 2/3 de la population qui est servie. Et donc, nous sommes aussi satisfaits aux 2/3.
Assurant la fourniture électrique à seulement 14% de ses citoyens, la RDC dispose du 3e potentiel hydroélectrique au monde, avec ses eaux qui peuvent produire plus de 100 gigawatts, selon les experts à la matière. Mais l'accès à l'électricité reste un problème criant dans ces grands pays de plus de 65 millions d'habitants. Charlie Kasereka depuis Goma pour VOA Afrique.
Retrouvez La Voix de l'Amérique en RDC sur Radio Mungano à Beni, au Nord Kivu, sur 95.10 FM.
En Guinée, la sécurité privée est en pleine expansion, nous signale notre correspondant sur place. Elle joue, cette sécurité privée, un grand rôle dans la lutte contre le banditisme. Et depuis quelque temps, la capitale Conakry découvre un nouveau service de sécurité privée, celui qu'offre le duo homme-chien. Reportage de Zakaria Camara.
Dans la cour de Kavtanem, Guinée, on est accueilli par les aboiements d'au moins 50 chiens dressés et gardés dans des cages. Ici, le quotidien rythme avec le métier de maître chien.
Un agent qui est sur le site avec le chien, il est encore plus efficace qu'un agent qui n'est pas avec le chien. Voilà pourquoi, pour être encore plus efficace sur le site, j'ai décidé d'être maître chien pour pouvoir mieux faire mon travail et être encore plus valeureux quoi, sur le site.
Première et unique société avec des agents cynophiles en Guinée, Kavtanem a très vite trouvé des clients dans un pays où l'insécurité a la vie dure. Oumar Kouyaté, directeur général.
On a avec les entreprises privées qui sont mix État-privé, mais aussi avec des autres entreprises qui peuvent être des sociétés minières ou autres. Mais aussi on a avec des particuliers qui peuvent être des domiciles, aussi des dépôts. Mais éventuellement, on fait pas mal aussi d'événementiel.
Confier sa sécurité à un agent avec un chien comme binôme est un fait nouveau en Guinée. Koumar Diallo semble apprécier.
Quand je sors tout de suite là dans ma chambre, même s'il y a un petit bruit, le chien aboie tout de suite. Et quand le chien aboie, je vois directement l'agent qui est là va commencer à demander. Même si l'agent est là seul en train de somnoler, quand le chien aboie, l'agent va se réveiller tout de suite là.
Et ma famille et moi, nous sommes en parfaite sécurité.
La sécurité, c'est aussi l'objectif recherché par des services spéciaux de la lutte contre la drogue et le crime organisé qui ont fait appel aux agents cynophiles. Oumar Kouyaté, directeur général de Kavtanem.
Le service du département anti-drogue et crime organisé m'a appelé à toute une urgence d'amener mes chiens de détection des stupéfiants, de fouiller le bateau. Alors, on a dépêché notre équipe pour venir sur le terrain avec l'accord du tribunal de première instance de Kaloum. On a fouillé ce bateau parce qu'il y a eu certains kilos de cocaïne à l'intérieur.
En 2014, les autorités de la ville de Conakry avaient lancé une campagne, une arme contre une récompense. Plusieurs dizaines d'armes avaient été déposées par des citoyens contre une somme d'argent allant jusqu'à 200 euros. Conakry Zakaria Camara pour La Voix de l'Amérique.
La Minute Éco, Nathalie Barge.
En RDC, les groupes miniers demandent la rétrocession de centaines de millions de dollars de crédits de TVA, dont le blocage met en péril le secteur, selon eux, rapporte l'AFP. L'État a commencé à suspendre le remboursement de ces crédits à toutes les entreprises fin 2015. Pour les groupes miniers, les sommes dues s'élèvent à plus de 700 millions de dollars, écrit la Fédération des entreprises du Congo dans une lettre adressée au ministre des Finances. La justice française a ouvert une enquête préliminaire après des accusations de corruption sur un contrat de 100 millions d'euros concernant la réalisation d'un complexe sécurisé de l'Union européenne en Somalie. Un homme d'affaires franco-somalien, Abshir Aden Ferro, affirme avoir été escroqué dans le projet baptisé Rapide, regroupant notamment des sociétés européennes. Dans le cadre de la lutte contre le blanchiment des capitaux, la Guinée a mis en place la cellule nationale de traitement des informations financières suite aux recommandations du groupe intergouvernemental d'action contre le blanchiment d'argent en Afrique de l'Ouest. Cette décision vise aussi à lutter contre le financement du terrorisme.
Tous les lundis soirs, La Voix de l'Amérique met le sport à l'honneur.
Les résultats, les analyses et vos commentaires, chers auditeurs, en direct à 19h, temps universel. Pour intervenir, c'est très simple. Laissez vos messages sur la page Facebook de Sporama ou par mail à fr@voanews.com. À très vite sur le terrain de la Voix de l'Amérique.
Le Monde, aujourd'hui, VOA Afrique en direct de Washington. Voilà, c'est tout pour cette édition matinale. Merci à Anne Albertson pour le suivi de l'actualité et la mise en onde. Un grand merci à toute la rédaction. Idrissa Sedoudia à Washington. Bonne journée à l'écoute de VOA Afrique.